espérance. Et ce matin, on va aller parler ensemble d'aimer la parole de Dieu, se tourner vers la parole de Dieu pour plonger dans sa parole jour après jour. Je suis vraiment encouragé. J'ai regardé ce matin, je pense qu'on est 95 sur notre groupe Facebook et donc dans notre plan de lecture de la Bible. Ça, c'est encourageant. Il y en a qui veulent participer comme ça. D'autres le font de leur côté, hein, dans un lieu secret. C'est très, très bien comme ça, comme dit le Seigneur pour la prière. Mais on veut aller dans la parole de Dieu et c'est de ça qu'on parle ce matin. La semaine prochaine, on va parler de la prière. Ensuite de ça, on va parler des symboles, du repas du Seigneur, du baptême. On va parler de la communion fraternelle. On va parler de témoigner. Et en parlant de la semaine prochaine, je veux vous inviter, si vous pouvez libérer votre après-midi samedi, on a une journée de prière, de méditation et prière pan-canadienne à travers tout le Canada. C'est TGC Canada qui a organisé ça. Quelques amis pasteurs, on a mis ça ensemble. Et donc, on vous invite à vous joindre à nous, vous joindre à des Canadiens un peu partout à travers le pays. On va prier dans les deux langues. On va avoir des méditations bibliques dans les deux langues à compter de midi la semaine prochaine. Et vous allez recevoir l'information pour ça. Donc, on veut grandir dans notre vie de prière. On va en parler le lendemain. Comment mieux s'y prendre que de commencer ensemble par une journée de prière. Donc, je vous invite déjà à mettre ça à vos agendas si vous pouvez vous libérer. On va aller dans un mot de prière, puis on va écouter un passage qui nous vient du psaume 119, qui est vraiment le psaume qui nous parle de l'amour de la parole de Dieu. On va aller ensemble dans un mot de prière. Bien, Père éternel, merci Seigneur, merci pour les technologies. Je suis reconnaissant pour l'équipe qui est ici. Je suis reconnaissant pour... On est vraiment en équipe réduite. On essaie de tout bien faire, tout respecter, Seigneur, mais je suis reconnaissant de ce que l'Église peut chanter des louanges dans nos foyers ce matin, de ce qu'on peut recevoir le message de ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi. En fait, la terre a besoin de toi. Tout le monde a besoin de toi, Seigneur. La grâce que nous, on a, la grâce qu'on a reçue, c'est de le savoir, d'en avoir une profonde conviction. Nous avons besoin de toi, de ta parole. Viens nous rencontrer ce matin. Viens, Seigneur, nous rendre amoureux vraiment de ta parole, qu'on puisse prendre plaisir à plonger les regards dans tes Écritures afin d'entrer en relation avec toi, afin de chercher ta face cette année, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.
Le passage biblique de ce matin est tiré du psaume 119, les versets 1 à 6 dans la nouvelle édition de Genève. 1 à 16, excusez-moi, de la nouvelle édition de Genève. Psaume 119, 1 à 16. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commandent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point. À la vue de tous tes commandements, je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole.
Merci, Julie. L'importance de la Bible dans la vie d'un chrétien. Dans Colossiens, c'est l'apôtre Paul qui dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Quel verset extraordinaire. Quel beau passage. Il y a tellement de choses dans ce passage-là. On veut être habité de la parole de Christ. Il me semble que c'est un des passages qui résume le mieux cette idée que je veux marcher selon l'Esprit. Je veux marcher selon l'Esprit en étant habité de la parole de Christ. Est-ce que c'est ça que tu veux cette année? Est-ce que c'est ça que vous voulez cette année? Marcher selon l'Esprit en étant imbibé, transformé, en s'exhortant les uns les autres avec la parole, en chantant des louanges, en chantant des psaumes, en déclamant la parole de Dieu, vraiment être imprégné de sa parole. Qu'est-ce que Paul veut dire lorsqu'il parle de la parole de Christ? Bien, on pourrait dire qu'il parle du message de l'Évangile. Paul est en train de parler du message de l'Évangile, mais je dirais dans un sens très, très large. Lorsqu'on parle de l'Évangile, on peut le résumer en quelques secondes en parlant du fait que Christ est venu sur la terre pour des pécheurs, mourir sur la croix pour des pécheurs afin qu'on soit pardonné, ressuscité d'entre les morts, remonté au ciel auprès du Père. Et celui qui croit dans le sacrifice de Jésus devient un disciple de Christ, devient chrétien. Par la grâce de Dieu, expérimente la nouvelle naissance, est habité de l'Esprit. J'ai l'Évangile. L'Évangile est tout donné juste là. Mais lorsqu'on a ce passage-là ici, l'Évangile de Christ, c'est vraiment dans un sens beaucoup plus large. Pensez à toute la Bible dans un sens, parce que toute la Bible nous raconte l'Évangile, de la Genèse avec la création, la chute de l'homme, la chute de l'être humain, jusqu'à la rédemption lorsque Christ vient mourir sur la croix pour nos péchés, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Tout ça, c'est l'histoire de l'Évangile. Toute la Bible raconte une seule histoire en définitive, bien qu'il y a des milliers d'histoires dans ça, de vie, d'expériences de vie, d'église, de prophètes, de messagers de Dieu, le peuple de Dieu qui ne va pas bien. Tout ça sert à raconter une histoire, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Toute la Bible nous parle de ce que Jésus-Christ allait venir faire pour nous, de ce qu'il a accompli pour nous et de ce qu'on reçoit lorsqu'on croit en lui. C'est dans ce sens-là, je crois, que Paul est en train de dire ceci dans ce verset-là. Pensons à Luc. À la fin de l'Évangile de Luc, Jésus va dire quelque chose qui nous aide un peu à comprendre comment les Écritures nous parlent de Christ. Dans Luc 24, au verset 44, on lit. « Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, écoutez bien ceci, dans la loi de Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, dans les prophètes, une grande section de l'Ancien Testament, et dans les psaumes. » Très intéressant. On va aller dans un psaume. Julie nous a lu une partie du psaume 119. Et donc, ce que Paul est en train de nous dire et ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que tout l'Ancien Testament annonçait la venue de Christ. Donc, dans ce sens-là, l'Ancien Testament parlait de Jésus-Christ, du Sauveur qui allait venir, des prophéties. Ça, c'est une manière de comprendre que toute la Bible parle de Jésus. Mais ça va plus loin que ça encore. Par exemple, les premiers chrétiens lisaient l'Ancien Testament et cherchaient Jésus à travers tout l'Ancien Testament. Pendant les premiers siècles, puis on a eu tendance à perdre ça un petit peu, mais je veux vous ramener là ce matin, je dirais même pendant des siècles, les chrétiens retournaient dans l'Ancien Testament pour lire le livre des psaumes, et voici ce qu'ils voyaient dans le livre des psaumes. Ça va peut-être vous surprendre. Ils avaient la conviction d'accéder à la vie intérieure de Jésus l'homme. Je m'explique. Dieu le Fils s'incarne, il devient un homme, il devient un être humain. Puis souvent, on se pose la question, on se dit, ouais, mais lui, il n'a pas péché, qu'est-ce qui se passait, comment il pensait, comment il réagissait. Mais les chrétiens avaient cette conviction-là, puisque Jésus, c'est l'homme parfait, celui qui est sans péché, puisque le livre des psaumes, c'est un livre de prière qui nous parle de la vie intérieure, de la piété, de ceux qui aiment Dieu. Bien, les chrétiens allaient lire les psaumes. Augustin a consacré plus de 1000 prédications dans le livre des psaumes. Et lisant le livre des psaumes en disant, « J'ai accès ici à la pensée d'un homme, d'une femme de Dieu. » Et donc, puisque Jésus-Christ est l'homme de Dieu, l'être humain parfait, j'ai accès à sa vie intérieure. Fait que la prochaine fois que vous allez lire des psaumes, dites-vous ça. Dites-vous, je veux aller entendre ce qui se passe dans le cœur de Jésus. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pensait dans son humanité? C'était quoi son expérience? Et c'est un peu dans ce sens-là qu'on va se tourner vers le psaume 119 ensemble ce matin, puis qu'on va aller voir quelques versets. Alors qu'on veut marcher par l'Esprit et demeurer en Jésus-Christ en 2021, mais pour ne pas marcher par nos propres forces, selon les désirs de notre vieil homme, comme on disait la semaine dernière, bien, on veut passer du temps dans la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de discipline de la grâce, on parle entre autres de passer du temps dans la parole de Dieu, d'apprendre à aimer sa parole et d'aller la voir pour recevoir des grâces quotidiennes. Quand j'ouvre les Écritures le matin, quand j'écoute des fois la parole en audio, lorsque je vais marcher puis je m'en vais méditer sur des passages, je vais vers la parole de Dieu pour recevoir mes grâces quotidiennes. C'est littéralement ça. Mes bénédictions, la faveur de Dieu. Je veux que son esprit me parle. Je veux aller faire le plein. Je veux marcher dans la plénitude de l'esprit. Alors, je vais aller vers la parole de Christ pour me nourrir. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Dieu aime que tu cherches à le connaître. Ton bonheur est intimement lié à ta relation avec sa parole. Vraiment pas compliqué. Dieu aime que tu cherches à le connaître. Ton bonheur est intimement lié à ta relation avec sa parole. Alors, je sais que déjà là, il y a plein de monde qui se disent, aïe, aïe, je ne serai pas heureux cette année. Parce que la parole de Dieu, je ne la lis pas beaucoup. Je ne passe pas beaucoup de temps dedans. Bien, oui, tu as raison. Tu as raison. Tu te prives si ça ne fait pas partie de tes disciplines de grâce. Tu te prives de beaucoup de bénédictions qui contribuent à notre bonheur comme être humain. Tu te prives de beaucoup. Et c'est pour ça que comme Église, on fait cet effort-là de s'encourager les uns les autres avec un plan de lecture des choses comme ça. C'est pour ça qu'on commence l'année vraiment dans la parole. Il y a des grâces qui sont là dont toi, tu te prives. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, bien, aller dans la parole de Dieu, c'est aller chercher la force qui est en Dieu. Et si tu es négligent par rapport à la parole, puis ça fait un bout de temps, puis là, la culpabilité embarque, puis tu deviens négligent encore plus, puis là, tu dis, « Ah, de toute façon, je ne suis pas discipliné. » Bien, c'est un peu bête, mais c'est comme si tu disais, « Bon, OK, toutes ces journées-là, j'ai décidé comme de marcher par mes propres forces au lieu de m'appuyer sur le Seigneur. Tant qu'à être rendu long, on va continuer comme ça. Je vais continuer sans la grâce de Dieu. Je vais continuer par mes propres forces. » Mais non, reviens à Christ. Dieu aime que tu cherches à le connaître. Dieu aime que tu reviennes à lui. Et donc, on ne devrait pas être accablé par des fardeaux de la culpabilité, des négligences qu'on a eues par rapport à la parole. Bien sûr, je vais dire, « Seigneur, je suis désolé, je te demande pardon. Mon cœur est repentant, puis ma repentance, c'est que je viens à toi pour puiser les grâces qu'il y a dans ta parole. » C'est comme ça que ma repentance va se manifester, pas par une culpabilité qui va m'écraser. Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu, ça vient de la chair, ça vient du diable, mais ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Et donc, je ne dirai pas, j'ai été négligent, je vais continuer par mes propres forces. Non, je vais aller puiser des grâces dans la parole de Dieu. Alors, mon premier point ce matin, c'est quand ton bonheur et la gloire de Dieu vont de pair. Je pense que c'est une des idées fausses à l'égard de la foi du christianisme les plus répandues. L'idée que marcher avec Dieu, c'est renoncer au bonheur, c'est se sacrifier. Mais jamais dans les Écritures, l'idée d'être heureux est séparée de la gloire de Dieu. Il arrive que de marcher avec Dieu entraîne des souffrances. Être parent entraîne des souffrances. Être en amour entraîne des souffrances. Avoir des amitiés entraîne des souffrances. Mais je ne veux pas arrêter d'avoir des amis parce qu'il y a des souffrances qui viennent avec ça. Et oui, suivre Christ peut entraîner de la souffrance, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas entraîner du bonheur, même dans des circonstances difficiles. Et donc, l'idée de la gloire de Dieu dans les Écritures va de pair, est associée avec notre bonheur. Puis si dans ta vision de la personne de Dieu, tu vois une espèce d'être égoïste qui veut toute la gloire pour lui et puis qui dans le fond, veut juste comme abuser un peu de ses créatures, qui va rendre servile puis il va profiter d'eux, tu ne connais pas le Dieu de la Bible. Honnêtement, tu ne connais pas le Dieu de la Bible. C'est celui qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Tu sais, fait que, oublie ça. La gloire de Dieu puis notre bonheur vont de pair. Et elles vont de pair lorsqu'on se tourne vers sa parole. Psaume 119, verset 1, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » C'est assez clair, marcher selon Dieu, c'est une source de bonheur. C'est une source de joie profonde. qui dépasse les épreuves de la vie, les difficultés de la vie. Verset 2, « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » On va vers la parole de Dieu, on médite la parole de Dieu, on étudie la Bible parce qu'on cherche le bonheur dans les voies de Dieu. Et Dieu va être glorifié à travers ça. Ça va contribuer à la gloire de Dieu. Je vais vivre selon Dieu. Mais mon bonheur se trouve là. Fait que, quand tu viens à Dieu, j'aime pas l'idée de dire qu'on le fait un peu par égoïsme. C'est que dans les Écritures, il y a vraiment l'idée que tout ça va ensemble. Tu sais, je viens pas à Dieu juste en disant « Seigneur, je veux ta gloire ». Non, je viens à Dieu parce que je ne suis pas heureux dans ma vie, j'ai besoin de lui, je réalise que je veux l'honorer. À quelque part, je veux recevoir sa bénédiction, je veux être heureux. C'est 100% biblique. C'est tout à fait biblique de dire, je viens à Dieu parce que je veux expérimenter le bonheur et je veux le glorifier. Et les deux vont ensemble. Les deux vont de pair. Maintenant, dans notre expérience de pécheur, tantôt j'ai parlé, hein, la création, la chute. Dans notre expérience de pécheur, aller vers la parole de Dieu, ou encore plus la manière que c'est exprimé ici, au verset 1, « selon la loi de l'Éternel ». La loi de l'Éternel, c'est un mot qui signifie la parole de Dieu en réalité. Puis le mot « loi », ce qu'il représente dans son sens original, c'est oui, des prescriptions de Dieu qui vont nous dire « voici ce qui est bien, voici ce qui est mal ». Mais à travers ces prescriptions-là, Dieu est en train de se faire connaître. Dieu est en train de se révéler. Le mot hébreu qui est là, signifie, a vraiment les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a une prescription sur ce qui est bien, puis dans cette prescription-là, Dieu est en train de se révéler. Et je vous donne une illustration très simple. Tu élèves des enfants. Tu élèves des enfants, tu as des lois à la maison. Tes lois servent à ce que ce soit tranquille dans la maison, à ce qu'ils arrêtent de te casser les oreilles. Tu veux la paix. Tu veux la paix. Fait qu'il y a des lois dans ta maison. Mais c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. En réalité, quand je vais vers mes petits-enfants, puis ils sont en train de s'arracher des jouets, puis là, je vais leur dire, c'est pas comme ça que ça se passe ici. Dans notre maison, c'est pas comme ça qu'on agit. On partage. Bien, je suis en train de me révéler à mes enfants. Je suis en train de leur faire connaître qui je suis, quelles sont mes valeurs, avec quelles valeurs je veux qu'ils grandissent. Voyez-vous, alors, il y a la prescription, mais il y a la révélation. Les deux sont présents. Tu veux savoir comment fonctionne un pays? Est-ce que c'est agréable de vivre dans ce pays-là? Une bonne manière de le savoir, va lire les lois de ce pays-là. Tu vas avoir une très, très bonne idée. Fais juste dans ta tête, là, passe un petit peu la planète Terre, puis pense à des lois dans certains pays où ça ne te tente peut-être pas d'aller vivre. Bien, ces lois-là sont des révélations de ce pays-là. Et donc, c'est ça qui se passe ici. Maintenant, avec notre côté pécheur, le fait qu'on a rejeté Dieu, bien, les lois sont pour nous des obstacles. On voit ça comme des freins. On voit ça comme quelque chose qui nous prive de notre liberté. J'ai des lois, fait comme ça, je suis privé de ma liberté. Je suis obligé d'aller par là, je suis obligé de faire ça. Je suis contraint. Et à quelque part, tout ça parle de notre cœur. La loi de Dieu est parfaite. Je veux dire, lorsque Dieu dit « aime ton prochain », tu sais, hein, non, ça n'a pas d'allure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire sur la terre, ça n'a pas d'allure d'aimer ton prochain? La loi de Dieu est parfaite, elle est bonne. Si Dieu est le créateur, aime Dieu. Ça va de soi. Donc, la loi est bonne. Les 10 commandements sont excellents, ils sont parfaits. Mais notre cœur pécheur fait qu'on regarde la loi, puis on est en réaction. On a l'impression qu'on va être contraint. Les Écritures nous disent dans Romains, c'est l'apôtre Paul qui parle, dans Romains 3, verset 10, Paul est en train de citer d'ailleurs un psaume, le psaume 14. « Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » C'est le propre de notre nature d'être pécheur, de vouloir fuir loin de Dieu plutôt que de chercher Dieu. De vouloir faire les choses comme nous on l'entend, estimant qu'il y a plus de liberté à faire les choses comme nous on l'entend. Comme si mes enfants, en définitive, auraient eu plus de liberté si je leur avais dit, « Ben oui, t'es plus fort que ta sœur, frappe-la, tu vas l'avoir le cadeau. » Puis là, il va être libre. Il est libre de la frapper. Non, c'est pas ça les valeurs qu'on leur a données. On leur a donné des valeurs de liberté, d'aimer son prochain, de partager. Mais notre cœur d'être pécheur fait qu'on est en réaction. Et je dirais même comme chrétien, Des fois, on regarde à la parole, puis on se dit, un devoir, j'ai un devoir à faire, oubliant qu'en réalité, il y a un trésor devant moi qui m'offre des grâces pour la journée. Oubliant que je peux aller chercher mon bonheur dans sa parole. Mais c'est notre cœur rebelle. Et voyez-vous, l'Évangile vient nous convaincre d'abandonner notre rébellion. C'est ça que l'Évangile fait. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, dans son sacrifice à la croix pour tes péchés, tu es libéré de cette rébellion-là. Et je ne suis pas en train de dire qu'on n'est jamais rebelle, les chrétiens. Mais fondamentalement, tu comprends que ton bonheur est à marcher avec Dieu. Tu reçois cette grâce-là. Et ton rapport à la parole de Dieu, même à la loi, va changer fondamentalement. Tu vas avoir un nouveau rapport à la parole de Dieu. Tu vas voir dans la parole une source de grâce, de bénédiction. Et là, je retourne vers la parole, puis je n'ai pas le fardeau de dire, écoute, ce texte-là va toujours me dire tout ce que je n'arrive pas à faire. Partout où je me plante, hein? Paul dit que la loi est un pédagogue pour celui qui ne connaît pas Dieu parce qu'elle confronte cette personne-là, puis elle lui montre que dans le fond, il n'est pas capable d'atteindre les standards divins. C'est un pédagogue. Mais une fois que j'ai compris ce que Christ a fait, une fois que j'ai connu l'Évangile de Jésus-Christ, bien, j'approuve dans le fond, j'accepte, j'endosse à 100% le fait que je n'arriverai pas à atteindre les standards divins. C'est Christ qui l'a fait à ma place. C'est lui qui l'a fait pour moi. Puis une fois que j'accepte cette vérité-là, je m'abandonne à sa grâce. Je m'abandonne à sa grâce et mon rapport avec la parole de Dieu change fondamentalement. Je ne m'en vais pas vers la parole de Dieu pour dire, « OK, est-ce que j'ai réussi mon checklist? Est-ce que je suis sur la coche? Parce que c'est une loi, puis il faut que je respecte la loi. Si je ne fais pas ça, je ne serai pas heureux. » Non, je sais que c'est Christ qui a obéi à la loi parfaitement, ce n'est pas moi. Et je m'en vais là pour que l'Esprit de Christ me parle et m'instruise dans la loi de Christ, m'instruisent autrement à travers les Écritures. C'est vraiment une grâce extraordinaire. L'Évangile te convainc de quitter ta rébellion pour venir à lui. Et avant de passer au prochain point, je veux juste mentionner quelque chose de vraiment intéressant. Si vous êtes habitué de lire la Bible en anglais, souvent, au lieu de l'expression « heureux », vous allez avoir en anglais « blessed ». Et c'est parce que le mot « béni » en français et le mot « heureux » sont deux manières de rendre ce mot-là, qui est là en hébreu. Être béni, c'est avoir la faveur de Dieu. Avoir la faveur de Dieu, c'est l'assurance d'expérimenter le bonheur. Et c'est pour ça qu'on peut traduire les deux alternativement par « béni », celui qui marche avec Dieu, celui qui vient vers sa parole, « heureux », celui qui marche avec Dieu, celui qui vient vers sa parole. Et donc, ce que je veux, lorsque je vais vers la parole quotidiennement, je veux recevoir des grâces pour ma journée. La grâce que l'Esprit de Christ vient de me parler à travers la parole de Christ. Puis je veux faire le plein, je veux m'imbiber de cette parole-là. Donc, cette première idée, c'est vraiment que ton bonheur puis la gloire de Dieu vont de pair. Et lorsque tu tournes vers la loi de Dieu, vers la parole de Dieu, tu le fais en fait pour chercher le bonheur parce qu'il y a des grâces quotidiennes qui sont là. Donc, je ne voudrais pas me priver. Et ça demande un peu d'effort, mais vraiment, je m'en vais puiser des grâces. Vraiment, je m'en vais chercher la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, même la plénitude de l'Esprit alors qu'il va me parler à travers sa parole. Quand ton bonheur et la gloire de Dieu vont de pair. Un des éléments qui est intéressant avec Dieu, c'est qu'on est vraiment dans une relation. Je pense que souvent notre conception de la religion, c'est qu'on est en train d'essayer de gagner des faveurs, puis on est en train d'essayer d'apaiser des divinités, puis on prie des êtres très abstraits ou des choses comme ça. Dans la majorité des religions, c'est comme ça que c'est présenté. Mais lorsqu'on vient dans le christianisme, on découvre que c'est un Dieu qui cherche une relation avec nous. Le bonheur de chercher Dieu et le découvrir. Dieu aime se laisser chercher. Dieu aime que tu cherches à le connaître. Il aime se révéler à toi. Une des plus belles choses dans les relations humaines, c'est de découvrir l'autre. J'ai des amitiés qui ont 15, 20 ans. J'ai eu une amitié qui a 28 ans avec mon épouse. J'ai mes parents que je découvre encore alors que j'ai 50 ans. Ça fait quand même une couple d'années que je les connais. Et une des plus belles choses dans les relations humaines, c'est de découvrir l'autre. De rester ouvert à dire, je vais découvrir comment il vit ça, qu'est-ce qu'il est en train d'expérimenter, comment est-ce qu'il réagit à ça. Puis je reste ouvert, je veux recevoir ce qu'il veut me faire connaître de lui. Puis c'est, honnêtement, c'est le secret d'une belle relation, hein? Le secret d'une belle relation, c'est de dire à l'autre, tu n'as pas besoin d'être exactement la même personne qu'hier. Tu n'as pas besoin de ne pas changer. Tu as le droit de ne pas bien aller aujourd'hui. Moi, je veux toujours découvrir qui tu es. Je suis toujours disponible à ce que tu veux me faire connaître de toi. Ça ne va pas bien. Tu es en train de changer. Tu as tendance à être ta mère. J'ai un ami hier qui me disait, Yannick, tu m'inquiètes un petit peu. Tu es anxieux. Tu as de l'air tendu. Puis il n'était pas en train de me dire, écoute, ça, c'est un aspect de ta personne que je ne veux plus voir parce que, tu sais, je ne suis pas bien avec ça. Il y a un courant de pensée qui dit, entourez-vous de gens là, qui vont juste vous amener des belles pensées puis tout ça. Wow, ça fait des relations profondes, ça. Quand tes amis ne vont pas bien, qu'est-ce que tu fais? Tu te pousses? Non. Un des secrets d'une relation profonde, c'est de rester ouvert à chercher. Bien, Dieu veut qu'on le cherche. Veut que je cherche sa face, que j'apprenne à le connaître. Et c'est une des beautés de lire la parole de Dieu quotidiennement, c'est que je suis dans une relation avec un être vivant qui se fait connaître à moi. Regardez le verset 10. Le psalmiste dit, « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Ça me faisait penser à Jésus qui dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez. » Au verset 2, il dit « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Quand on commence à cheminer avec Dieu, je pense que souvent on a le réflexe qu'on voudrait que tout soit clair, que tout soit simple, que Dieu nous dise tout ce qu'il a à nous dire sur lui, puis « OK, là je te connais, je sais comment ça marche, puis on y va, puis quand j'ai des questions, tu me donnes des réponses. » Mais c'est une relation qu'on vit avec Dieu. C'est un parcours de vie où on marche ensemble, Dieu et moi. Puis, il y a une tuile qui me tombe sur la tête, il y a une épreuve qui arrive dans ma vie, je ne sais pas comment réagir. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Bien, Dieu veut simplement que j'aille dans sa parole et que je le cherche. Ma vie change, mes relations changent. Hop, 50 ans, je suis en train de vieillir. Je me dis, OK, il me reste moins d'années qu'avant. Comment on vit la vie à 50 ans? Je n'ai pas toutes les réponses. Dieu veut que je le cherche. J'ai des requêtes dans mon cœur, je le supplie de faire des choses, puis on dirait qu'il tarde à répondre. Puis je voudrais que ce soit simple, je voudrais avoir des réponses claires. Dieu veut que je le cherche. Il veut que j'entre en relation avec lui. Et c'est ça que je fais. Quand je vais dans la parole de Dieu, j'ouvre la Bible pour chercher à le connaître, pour qu'il se révèle à moi. Fait que cet aspect-là peut-être un peu dérangeant, qui nous laisse des fois perplexes de dire je vais lire la Bible puis je ne comprends pas tout, je veux marcher avec Dieu, mais je ne comprends pas tout. C'est une relation. Quand tu commences une amitié, tu ne comprends pas tout. Quand tu commences à travailler avec un nouveau collègue de travail, tu es là puis tu essaies de le décoder, puis tu le regardes aller, une nouvelle collègue, puis là tu dis « OK, oui, OK, je commence à comprendre. » Je commence à suivre. Il y en a qui sont faciles à lire, il y en a d'autres qui sont vraiment difficiles à lire. Puis tu es là, puis tu explores. Tout n'est pas évident. On est dans une relation, on est en train de se découvrir. La même chose dans les amitiés, la même chose en amour. On est en train de se découvrir, c'est un processus. Bien, tu dois voir ce temps, ce rapport que tu as avec la parole de Dieu, puis avec Dieu comme un processus où Dieu veut que tu le cherches et il prend plaisir à ça. Qui ne prend pas plaisir à une personne qui vient s'asseoir avec toi et qui dit, « Hey, parle-moi donc de toi. J'aimerais ça te connaître. Fais-moi connaître tes pensées. Raconte-moi ton enfance, tes voyages. Qu'est-ce que tu aimes faire en vacances? C'est quoi tes hobbies? Qu'est-ce que tu détestes manger? Qu'est-ce que tu aimes? » C'est agréable. Dieu veut qu'on s'approche de sa parole avec cette même attitude-là. Il veut qu'on le cherche. Et donc, j'ouvre les Écritures en disant, Seigneur, fais-toi connaître à moi. C'est vraiment simple, hein? Notre plan de lecture, notre projet de lire ensemble les Écritures cette année. Chaque matin, tout ce que tu as à faire, le soir, quand tu le fais, peu importe. Fais juste cette prière-là, dis, Seigneur, j'aimerais ça te connaître un petit peu plus, là. Viens te faire connaître à moi. Puis des fois, tu vas dire, t'es assez silencieux. Tu sais, il y a des soupers comme ça avec ton épouse, avec ton époux. Tu dis, ouais, il n'y avait pas grand-chose. Il ne se livrait pas beaucoup. C'était comme assez opaque. Il y a des moments comme ça. Il y a d'autres moments où c'est comme, oh, je découvre des choses sur Dieu extraordinaires. Dieu aime qu'on le cherche. Il aime se laisser chercher. Mais il nous donne la promesse qu'il va se faire connaître à celui qu'il cherche. Je trouve ça extrêmement beau, puis ça m'aide à comprendre mon rapport avec ce livre-là. C'est la révélation de Dieu, puis je vais vers les Écritures en disant, je veux te connaître un petit peu plus aujourd'hui. Et ce que tu vas me faire connaître de toi, bien, ça va être des grâces. Je m'en vais puiser des grâces pour ma journée en connaissant un peu plus mon Dieu, mon Seigneur. Et à travers ça, il va être un guide. En se révélant à moi, on a dit tantôt, hein, la loi aussi, c'est des préceptes qui m'aident à savoir comment marcher. Bien, à travers ça, ça va être un guide. Il va se faire connaître à moi et puis il va me guider. Au verset 9, on lit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? » Et l'idée ici, c'est vraiment une direction. Il va nous donner une direction. Des fois, ça peut être cool de partir sur un « nowhere hein. ». Tu sais, tu dis, « OK, on s'en va en vacances, chérie. » « Ah, nowhere! » Tu fais ça une fois, tu sais, un gros voyage là où c'est un trip, vraiment comme « nowhere ». Mais après ça, tu dis, on va quand même avoir une ou deux places où on aimerait ça aller. Puis je me souviens de l'époque où on fonctionnait avec des cartes papier, tu sais. Moi, j'ai connu ça. Puis il y avait toujours comme deux types de voyageurs. Il y avait celui qui disait, « Oh non, c'est plate avec une carte, je sais à peu près où on s'en va, puis on va le trouver. » Puis tu avais l'autre qui fonctionnait toujours avec une carte, tu sais. Mais en général, après quelques années, celui qui fonctionnait sans carte, ça s'agissait un petit peu, tu sais. Il disait un minimum. Aujourd'hui, on ne serait même pas capable de concevoir l'idée de dire, « Bah, ben, je m'en vais quelque part, je ne suis jamais allé. » Pas de GPS. Pas de GPS. Nowhere. On arrivera quand on arrivera. Non, c'est pas ça qu'on va faire. On veut une direction. Mais la parole de Dieu est exactement ça. Je m'en vais vers Dieu pour recevoir des grâces. À travers ça, il va se faire connaître à moi et je vais recevoir une direction. Il va être en train de conduire ma vie, de diriger mes pas. C'est vraiment intéressant parce que dans le passage ici, il parle du jeune homme qui est la jeune femme aussi. Il est en train de dire que très tôt, je peux apprendre à être guidé par la parole de Dieu. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, bien, si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, si tu n'as pas cru dans ce que Jésus a fait pour toi comme sacrifice, t'es jeune, je veux dire, l'idée d'être guidé par Dieu, ça se peut que c'est comme, « Ah non, moi je veux faire les affaires comme je veux. Moi, c'est juste des « nowhere ». Je m'en vais où je veux, puis on verra ça, on décidera ça en chemin. » Peut-être que tu es là. Peut-être que tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance. Mais si tu as expérimenté la nouvelle naissance, si tu es chrétien, l'Esprit de Dieu habite en toi, bien la parole de Dieu tous les jours, c'est ton guide. C'est elle qui va te guider. Dès ta jeunesse, et c'est toute une grâce quand tu peux commencer ça très jeune dans ta vie. C'est vraiment une bénédiction incroyable. Maintenant, concrètement, même dans ce psaume-là, j'ai des réponses très concrètes, puis je termine avec ça. Qu'est-ce que je vais faire concrètement? Bien, je vais aimer sa parole comme j'aime Dieu. Puis très, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais l'étudier, je vais la mémoriser, puis je vais la méditer. Et j'ai tout ça dans ces quelques versets-là du psaume 119. Au verset 7, il dit, « Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. » Comme j'ai dit tantôt, si tu vois la loi comme un code routier, tu te dis, « Non, je ne veux pas comme triper à étudier le code de la route. Là. Je fais ça pour passer un examen. Après ça, j'essaie de me rappeler des panneaux indicateurs puis ça s'arrête là. » Mais lorsque tu as compris que Dieu se révèle à travers sa parole, il vient me révéler sa personne. C'est la première place où je vais pour entrer en relation avec lui, pour l'écouter me parler. « Hey Seigneur, parle-moi de ta journée, parle-moi de toi, parle-moi de ta personne, parle-moi de tes projets, parle-moi de ta beauté, parle-moi de ton caractère, parle-moi de tes projets pour moi. Parle-moi. Je vais vers sa parole. » Et donc, je vais aller là, puis je vais étudier sa parole. Je vais chercher à la connaître, puis... Si tu commences dans les Écritures, tu n'es pas familier avec les Écritures, écoute, c'est un univers. C'est un univers immense, c'est un livre qui est ancien. Il y a des barrières culturelles que tu vas apprendre à franchir au fur et à mesure. Mais tu es en train d'entrer en relation avec quelqu'un. J'avais un prof de philo qui nous avait dit « Lorsqu'un être humain décède, il y a un univers qui disparaît. » Et ce qu'il était en train de nous dire simplement, c'est qu'un être humain, c'est un univers en soi d'idées. Bien là, tu es en train d'entrer en relation avec la personne de Dieu. Fait que, sois patient, va dans les Écritures, commence à lire les Écritures, pose des questions, les choses vont se placer, tu vas voir quelques semaines, quelques mois, puis là, tes repères se trouvent, puis vraiment, tu découvres la personne de Dieu. Mais je vais apprendre, je vais étudier la parole de Dieu parce que je veux le connaître intimement. Je veux découvrir qui il est. Comme j'ai étudié mon épouse, je vais étudier la parole de Dieu. Je voulais connaître ma femme, je veux connaître mon Dieu. Je vais étudier sa parole. Je vais étudier sa parole pour le connaître. Je vais mémoriser ses Écritures. C'est vraiment intéressant. Verset 11, il dit, « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Il est en train de dire, « Je désire que les pensées qui m'habitent, les pensées qui deviennent une seconde nature pour moi, les pensées qui vont venir quand je vais vivre quelque chose peut-être de difficile ou une tentation quelconque, ce qui va venir spontanément, c'est ce qui remplit mon cœur. » Et donc, il dit, « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je suis imbibé de la parole de Christ. Et donc, l'Esprit de Christ vient puis peut me guider avec ça. Et donc, il y a des passages que je vais apprendre à mémoriser. Je vais mémoriser les passages des Écritures. Un verset par-ci, un verset par-là. Il y a quelque chose qui touche. Prends-la en note. Reviens-y dans la journée. Apprends à serrer la parole de Dieu dans ton cœur. On commence l'année 2021. Est-ce qu'il y a un passage en ce début d'année que tu voudrais serrer dans ton cœur pour les prochaines semaines? Revoir, repasser dans ton cœur. Faire le plein. On a parlé de marcher selon l'Esprit la semaine dernière. Est-ce que ton rapport à Dieu, ton rapport au christianisme est un rapport un peu de loi, puis d'ordre, puis de règles, puis tout ça, puis tu dis, c'est vrai, j'ai tendance à m'appuyer sur mes propres forces. Peut-être que tu veux mémoriser ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière. Peut-être que tu veux mémoriser quelques versets ici dans le psaume 119. Mais tu veux être imbibé dans ton cœur, dans ton âme, nourri de la parole de Dieu, parce que ça va être disponible à l'Esprit de Christ pour qu'il s'en serve puissamment dans ta vie. À tout moment, il va venir, il va travailler avec ça. Méditer la parole de Dieu, mémoriser la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire méditer? Bien, un bel exemple de ce que c'est la méditation, ça n'a rien à voir avec la méditation transcendantale. On ne cherche pas à faire le vide, on cherche à faire le plein. Je vais juste le dire comme ça, simplement. Donc, nous, on n'essaie pas de vider notre esprit. On essaie juste d'accorder notre esprit personnel à l'Esprit de Christ qui habite en nous. Puis comment on fait ça? En méditant la parole de Dieu. On s'imbibe de la parole de Dieu. Puis si tu veux savoir c'est quoi la méditation, bien, je t'encourage, peut-être aujourd'hui, peut-être cet après-midi, à lire le psaume 119 au complet. Très, très, très répétitif, le psaume 119. Le psaume 119, c'est une méditation qui devient une prière sur la Bible, sur la parole de Dieu. Il y a un sujet principal à travers tout le psaume 119, c'est la parole de Dieu puis notre rapport à la parole de Dieu. Puis le psalmiste qui a écrit ça repasse dans ses pensées puis dans son cœur l'importance des Écritures, l'importance de la parole. Puis il va lui donner toutes sortes de noms, tes prescriptions, tes lois, tes ordonnances. Il est constamment en train de parler de sa parole. Puis il repasse ça dans son cœur constamment. Puis là, il devient tellement imprégné de cette réflexion-là que ça se transforme en prière. Ça devient une prière de son cœur. C'est ça, méditer la parole. Alors, c'est sûr que si tu as décidé de lire toute la Bible en un an avec nous, puis même plus encore avec ce plan de lecture-là, mais c'est peut-être pas lorsque tu lis tes 4 chapitres que tu as le temps de méditer. On va méditer plus facilement lorsqu'on va prendre une toute petite portion, un verset, deux versets. C'est un peu pour ça aussi qu'on sert du dévotionnel avec Don Carson, parce que lui a pris le temps de méditer un peu sur le passage. Puis là, il nous donne des pistes. Puis je ne vais pas juste lire la méditation de M. Carson. Je vais lire mes Écritures, mes textes bibliques. Je vais lire la méditation. Je vais déposer ça. Puis je vais prendre 5 minutes. Je vais m'arrêter. Puis je vais juste repasser un peu tout ça. dans mon cœur. Pas, j'essaie de ne pas penser au travail. Moi, personnellement, là, tôt le matin, il n'y a personne qui bouge. Il n'y a même pas de voiture qui passe sur la rue. Extraordinaire. C'est mon meilleur moment pour méditer. Ou sinon, je vais aller marcher. Je vais aller marcher au parc, je le dis souvent. Marcher un petit peu dans le bois, tranquille. Puis là, je fais juste repasser ça. Ça peut prendre juste 5 minutes, ça peut prendre une demi-heure, ça peut prendre une heure. Mais je vais juste repasser dans mon cœur ce que j'ai vu. Et je suis en train de méditer les Écritures. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre en avant. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Que la parole de Christ demeure en vous. C'est ma prière pour nous comme Église cette année. Ma prière, c'est que nous désirions profondément dans notre âme, dans notre cœur, être habités de la parole de Christ. Et que quotidiennement, nous allons prendre le temps d'aller puiser dans la parole de Dieu nos grâces pour la journée. Et pas avoir un rapport légaliste à la parole, un rapport de devoir. « Ah, hier, je ne l'ai pas faite, il faut que je la fasse aujourd'hui. » Ce n'est pas ça la question. Hier, tu ne l'as pas faite? Est-ce que ça te tente d'être plus heureux aujourd'hui? Est-ce que tu veux recevoir ces grâces qui sont là? Et qu'on devienne amoureux de sa parole. Et que sa parole nous habite. Et plus sa parole va nous habiter, plus l'Esprit de Christ va être présent, va se manifester, on va être rempli de l'Esprit de Christ. Je termine avec un poème, d'accord? C'est rare que je fais ça, mais je vais vous lire un court poème de Bonnard qui nous parle de son amour de la parole de Dieu. « À toi la gloire », c'est le titre. « Ta parole est la richesse unie à l'éternité, accessible à ma faiblesse malgré son immensité. Ta parole est l'épée qui souvent vint me meurtrir. Aucune n'est mieux trempée pour blesser et pour guérir. Ta parole est la semence d'où vont naître les moissons. Elle répand l'abondance au sein des mortes saisons. » On va prier. Seigneur Jésus, nous sommes dans une saison très particulière. Une saison qui ne va pas de soi, Seigneur. Une saison qui nous surprend, qui nous bouscule, qui nous dérange. Une saison où nous cherchons constamment la bonne attitude, le bon rapport, la bonne manière d'agir. Une saison où on est provoqué des fois dans des réactions qui nous surprennent. D'autres fois, on est attristé, on est découragé. Une saison où nous avons besoin d'être habités de ta parole. Nous avons besoin que ta parole, Jésus, demeure en nous. Je te prie, Seigneur, de nous faire grandir dans cette année 2021, que l'Église de l'espoir, cette belle famille, puisse grandir dans ta parole. Que nous ayons un rapport, Seigneur, mature avec ta parole, c'est-à-dire qu'on ait envie d'aller puiser nos grâces quotidiennes dans tes Écritures. Qu'on ait envie de méditer ta parole, d'être habité par ta parole. Qu'on puisse s'encourager les uns les autres aussi. Avoir cette maturité-là de s'encourager à aller dans ta parole, Seigneur. Seigneur, je crois que le bonheur, la bénédiction est promise dans tes Écritures à celui qui vient puiser ses grâces quotidiennes, qui vient vers toi humblement, dépendant de toi, qui cherche ta face, qui cherche à te connaître, Seigneur. Viens, Seigneur, nous apprendre à t'aimer. À t'aimer en aimant ta parole, Seigneur. C'est dans le précieux et beau nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.